Dans les lectures de ce jour, c'est le thème de la fin, de la mort qui traverse ce qui nous est dit. Alors évidemment, c'est pas forcément très joyeux, mais c'est une réalité. C'est la réalité qui détermine notre vie. Hein. Donc la mort de tout homme est décrite dans Coëlette. Et elle est inéluctable. Au fil de cette lecture, on voit la description que cet homme a fait, cet auteur sacré a fait. Il a regardé ce qui se passait, comment les choses avançaient. On sent toute une réflexion sur l'être humain. Et cela nous permet de choisir notre vie en sachant qu'elle s'arrête un jour. Si notre vie ne s'arrêtait pas, nous ferions n'importe quoi sur Terre. Parce que nous sommes abîmés. Et quand on est abîmé et qu'on n'a aucune limite, eh bien, on fait n'importe quoi. C'est le lot de tout être humain. Les exemples sont légion. Donc, ça nous permet de choisir notre vie, l'orientation de notre vie, comme précisément un passage vers une autre vie. À la fois, cette vie a déjà commencé, puisque c'est notre âme, principe de vie qui dure. Hein. Le corps ressuscitera, c'est notre foi, mais il doit d'abord passer par une forme de décomposition. Et Coëlette nous dit, il faudra rendre compte du trésor de vie que nous avons reçu. Voilà, c'est un trésor, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il va falloir en rendre compte un jour ou l'autre. Donc c'est l'Ancien Testament qui nous dit ça. Et en fait, ne nous sont pas donnés d'orientation pour, j'allais dire, pour bien agir, pour avoir un projet. Et je crois que c'est éclairé par l'Évangile. L'Évangile est clair, cette première lecture. Mais c'est un tout petit peu différent, dans le sens où ben, Jésus suit le chemin de tout être humain. Donc en ce sens, eh bien, il mourra. Ce qui est scandaleux pour... Enfin, les disciples ne l'avaient pas envisagé, quoi. Pour eux, un Messie, c'est quelqu'un qui meurt pas, quoi, finalement. Et donc, ils comprennent pas. Enfin, au fond, c'est tout à fait intéressant de voir que les disciples n'ont aucune idée de la vie éternelle. Ça nous rend très proches d'eux à ce moment-là. Évidemment, après la résurrection, on voit qu'ils sont. Enfin, c'est plus du tout le même discours, quoi. Ils cherchent pas à préserver leur petite vie du monde étriqué, mais ils envisagent une vie éternelle pour laquelle ils travaillent. Donc Jésus, lui, choisit de vivre une vie bien précise, un projet bien précis. Et ce projet, c'est le salut de l'humanité. Il n'y a qu'à lui que c'est donné en tant que salut, mais il nous est proposé d'y participer. Donc voulons-nous participer au salut de l'humanité en étant la main de Jésus, la bouche de Jésus, voilà, en évangélisant. En étant des apôtres ou des successeurs des apôtres, des disciples. Alors il y a quelque chose d'intolérable là-dedans, hein. Et on nous dit, donc Luc le dit, hein, les disciples ne comprenaient pas, ou alors en fait ils ont très bien compris. Ils comprenaient pas et ils voulaient pas poser de questions. En théologie morale, bon, j'ai déjà évoqué hein, ce qu'on appelle l'ignorance crasse. L'ignorance crasse, ça ne veut pas dire ce que les crétins pensent que ça veut dire. L'ignorance crasse, ça signifie l'ignorance volontaire, voulue, prémédité. J'ai un doute sur telle action, je ne veux pas aller savoir si c'est bien ou mal. Je veux rester dans mon doute. C'est ça l'ignorance crasse en théologie morale. Et donc là, ils sont dans un cas d'ignorance crasse. Ils ne veulent pas poser la question. Voilà. Des fois que la réponse soit ce qu'ils ont peut-être imaginé que ça pourrait être. Bon, même l'auteur sacré dit, ça restait voilé pour eux. Hein. Donc, voilé, ça veut dire qu'il y a un voile. Hein. À travers un voile, on peut voir quelque chose. Hein. Mais on ne voit pas bien. Donc, on a besoin d'éclairage pour voir mieux. Voilà. Donc, et tout ceci semble donc intolérable. Et en fait, c'est aussi intolérable que la mort qui fauche un enfant, un bébé, un jeune. En France, la mort de Philippine il y a quelques jours, son assassinat, 19 ans. Et on se dit un peu pourquoi Seigneur, quoi. C'est intolérable, c'est humainement, c'est totalement intolérable. Et celui qui est le. Enfin, je vais peut-être dire une chose qui peut surprendre, mais Dieu est bouleversé de cette inhumanité de ces créatures. On a l'impression que Dieu dit, mais comment ils font, comment ils réussissent à être aussi odieux les uns envers les autres. Bon, sauf que Dieu a la réponse. Hein. Mais c'est un peu comme quand Jésus dit, comment n'avez-vous pas la foi? C'est comme, quand Jésus dit ça dans l'évangile, c'est comme s'il disait, mais vous faites comment pour pas croire? J'arrive pas à comprendre. Bon, c'est un anthropomorphisme que je fais, hein, je dis pas Dieu comprend. Mais c'est comme si Dieu se disait, mais comment ils font? Bon, bref. Donc tout ceci est le terrible fruit du péché. La mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, par la jalousie du diable, par le péché. Hein. L'homme n'a pas été créé pour cela, mais c'est devenu son lot. Et c'est le lot de chacun. On ne connaît personne qui ne soit mort. La seule exception possible est la Vierge Marie. Hein, puisque dans le dogme catholique, on dit qu'elle est montée avec son corps et son âme. Était-elle morte ou pas morte? Les orthodoxes parlent de dormition. Jésus lui-même est mort. Voilà. Donc tout le monde meurt. Et si on n'envisage pas la vie éternelle et le bonheur éternel, dont on n'a pas idée, parce qu'on en fait une expérience infinitésimale sur Terre, hein. Des moments où on est dans une liesse extraordinaire, mais ça passe. On ne se maintient pas dans une liesse extraordinaire. On n'est pas maintenu, donc on n'a pas une grande idée de ça. Donc si c'est pas, on n'envisage pas ça, alors tout ça est très injuste. Du point de vue de la justice humaine, la mort est totalement une injustice. Voilà. Du point de vue de la justice divine, la mort n'a pas le dernier mot. En fait, Dieu ne répond pas à cette injustice humaine. Il dit oui, si tout s'arrête sur terre, vous avez raison. Je vous ai fait un très sale coup. Mais rien ne s'arrête sur terre. En fait, c'est ça que Dieu essaie de nous faire comprendre. Me semble-t-il. Hein. Donc si on croit qu'il y a un bonheur éternel, une vie éternelle, ça reste mystérieux, mais ça prend du sens. Voilà. Quel sens a la mort tragique de Philippine, 19 ans? Quel sens a la mort de je ne sais qui? Comment on peut entendre ça? Comment on peut comprendre? On ne peut pas dire que ce soit une défaillance de la nature, hein, comme un. Cela arrive parfois. Un enfant conçu qui. bah, qui meurt dans le sein de sa mère, quoi, parce que le cœur s'arrête, parce qu'il y a une déformation chromosomique, parce qu'il n'est pas viable. Ça, c'est de la nature. C'est la nature. L'être humain n'a pas d'intervention là-dessus. Donc ça, c'est la fragilité de la nature. Mais là, des êtres qui sont nés, qui ont été élevés, voilà. Quel sens est-ce que ça a? Donc en créant l'homme libre, Dieu a pris le risque de nous livrer les uns aux autres et de nous faire confiance. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont tout à fait conscience de ça, beaucoup plus qu'on ne croit, et qui en tirent profit. Qui tirent profit du faible, qui tirent profit de la naïveté, qui tirent profit de la détresse, hein, toutes les personnes qui sont jeunes femmes en particulier en général, qui sont à qui on promet d'aller aux États-Unis et qui se retrouvent dans les maisons closes dans le meilleur des cas, si je puis dire, ou dont on tue après avoir enlevé des organes, ou bien ces jeunes femmes qui sont repérées parce qu'elles sont tombées enceintes et dont on récupère l'enfant qui va devenir un objet sexuel plus tard. Voilà, Dieu a pris le risque de nous faire confiance. C'est tragique, mais encore une fois, ça ne s'arrête pas ici-bas. C'est-à-dire que nous rendrons compte de cette confiance et de l'usage que nous en aurons fait. Tout être humain rendra compte de ça. Alors, nous ne sommes pas tous des criminels, mais nous sommes tous des êtres capables de faire du bien avec la grâce de Dieu. Donc, il y a peut-être les mauvaises actions, il y a certainement les mauvaises actions qui seront scrutées, mais il y a aussi les omissions. Les gens oublient beaucoup les omissions. C'est pas très fréquent quand les gens se confessent. Qui s'accuse d'omission. Or, c'est peut-être très très grave une omission. Avoir oublié de ne pas avoir. Voilà, c'est une action. Hein. Une action ratée, mais c'est une action. Et nous sommes responsables de nos omissions. Donc, on fit tort par action et par omission. Voilà. Voilà, j'ai omis de pardonner, j'ai omis de. D'être avenant, j'ai. Que sais-je? J'ai oublié de faire une prière. Bon. Voilà, nous rendrons compte de tout ça, donc il faut pas en trembler, il faut au contraire se réjouir, mais on ne peut se réjouir de ça qu'à condition, évidemment, de chercher à faire le bien. Et de voir se dire, yes! J'ai fait un truc génial, bon, je sais pas ce qu'il vaut, mais il est bien. Bon, voilà, on a un Paul dans Romains qui nous dit l'amour ne passera jamais. Donc, comme j'ai dit une autre fois, l'amour est éternel. Hein. Quand on pose un acte d'amour, il part à la verticale. Il est posé dans l'éternité. Voilà. Donc il y a des actes comme ça, on sait que. Donc on en fait de plus en plus et on peut se dire je travaille pour la vie éternelle. Non seulement la mienne, mais aussi celle des autres. Parce qu'un acte d'amour, ça touche quelqu'un et voilà. Voilà, c'est le combat du mal contre le bien et du bien contre le mal, hein, qui est finalement décrit ici. Enfin, c'est au moins comme ça que j'ai essayé de le présenter et de le comprendre.